Bonjour.
Albert Algou.
Bonjour.
Jérémy Crédville. Tanguy Pastureau sera là tout à l'heure. Bonjour. Et nos invités, Carole Bouquet et Michel Blanc.
Bravo.
Bonjour Michel.
Soyez les bienvenus, merci de venir nous présenter. Voyez comme on danse votre nouvelle comédie, Michel Blanc. Ça faisait quelques années que nous l'attendions. Elle est portée, incarnée, entre autres, par Carole Bouquet. Et merci Carole de venir également nous en parler. Karine Villard, Charlotte Rampling, Jean-Paul Rouve, William Lebguil, Jacques Dutronc, vous-même en caméo.
Oui,
il fallait bien un petit clin d'œil.
Voilà, j'ai un rôle, j'ai une absence très présente dans le film.
Oui.
Et une petite apparition à la fin.
Voilà.
Mais on dira rien parce que j'aimerais que ça reste une surprise pour
alors,
les gens.
Vous assurez la continuité, on va dire. Voilà.
Le lien.
Voilà.
Sarah Martins, Guillaume Labbé, Jeanne Quité et Émilie Caen. Voilà pour le casting de ce film dont on va parler. Film qui sort ce mercredi. Mais d'abord, je voulais savoir si notre bande connaît bien Carole Bouquet et Michel Blanc si présents. On va commencer par politesse, par Carole. Carole. Enfin, c'est pas vous qui répondez, ce sont nos amis. Quelle mauvaise
blague. Vous pouvez répondre quand même.
Non. Quelle mauvaise blague son regretté mari et producteur Jean-Pierre Assam lui a-t-elle faite dans un hôtel ?
Tire sur mon doigt.
Non.
Non.
Tire sur mon doigt. Non.
Dans un hôtel.
Ouais, dans un
hôtel. Blague, l'ascenseur, ouais. Il a bloqué.
Il a donné un autre nom pour Carole Bouquet.
La chambre n'était pas réservée.
Non.
Il lui a fait monter un repas.
Non, c'est pas à vous de le dire.
Il a donné un nom d'ex.
Ils peuvent pas deviner.
Il a donné un prénom d'ex.
Ah,
on doit pas deviner.
Un faux nom.
Je savais même pas que je l'avais raconté.
Si vous l'avez raconté.
Je dis n'importe
quoi. Aux Inrock.
Ah oui.
Ah oui, tout d'un coup, on croit qu'aux Inrock, on peut tout dire.
C'est idiot.
Et ça repasse sur Inter.
Mauvaise blague.
Une mauvaise blague.
Ah, c'est une blague inimaginable. Je pense qu'aucun mari n'oserait.
Il s'est pas présenté dans la chambre, il a envoyé un autre homme à sa place.
C'est pas loin.
Vous êtes très proche.
C'est pas loin.
Il s'est fait passer pour quelqu'un d'autre.
Il a dit qu'il était mort.
Un autre homme dans son lit.
Oui, une autre femme.
Voilà.
Allez-y.
C'est ça.
Bah c'est ça.
On lui accorde.
Ouais, là vraiment c'est très près. Oui, on était dans un hôtel en Grèce, je tournais le James Bond et puis dans le hall de l'hôtel, enfin dans le il a conseillé à certains touristes en leur donnant le numéro de ma chambre qu'ils pouvaient monter dans ma chambre.
Mais non.
Si. Et
l'expression que vous avez employée, Carole, si je peux me permettre, il vous a vendu à un grec.
Oui, c'est pas faux. Là, j'ai essayé d'être plus légère en fait. Et
il y a vraiment eu un grec qui vous attendait.
Ah bah, il est venu dans ma chambre. J'ai hurlé parce qu'il s'est assis sur mon lit. Le pauvre, il croyait que c'était possible. Donc, vu ma réaction, il a été terrorisé. Et dans la chambre à côté, celui qui s'est pas levé, qui ne faisait pas partie de la blague, était Roger Moore, n'a pas bronché. Alors que je hurlais, mais hurlais.
Le flegme anglais.
Oui, ou la lâcheté anglaise.
Il m'a dit, pourquoi tu hurlais comme ça hier? Je lui ai dit, ça t'a pas dérangé, tu n'es pas venu voir si j'avais un problème.
Et vous revoyez depuis avec Nikos?
Question sur Michel Blanc. À quoi Michel Blanc est-il addict?
La gym.
Accro, non.
Les infos,
la cocaïne,
les
cafés,
le jeu, non.
Non. Alors c'est
musique classique,
c'est gastronomique.
Ça va plus loin que collectionneur. Il est passionné et il
kleptomane.
Non.
Ça m'étonne, ça, je suis passionné.
Ah ouais.
Bon, allez-y, vous allez m'apprendre des trucs sur moi. Là.
Il est passionné.
Les draps de bain.
Passionné,
non.
Passionné.
Je pourrais tenter.
Par la musique.
J'ai fait un signe à Michel. Alors
mais il a regardé.
Oui, excusez-moi, on est à la radio.
J'ai oublié que c'était la radio.
Donc 5 points pour moi.
Vous êtes passionné des montres.
J'ai été élevé dans une horlogerie. Mon grand-père était horloger. Ah. Alors voilà, je sais pas, c'est le fait de. C'est de l'eau.
Santé.
C'est le fait d'avoir été élevé dans cet environnement, peut-être. Donc j'adore ça. Alors j'ai pas une collection, rassurez-vous.
Ah,
enfin,
d'accord.
Rassurez-vous. J'aimerais bien, mais non. Non, mais j'aime beaucoup ça. Les vrais mouvements.
Oui.
À l'ancienne. À la
complication.
Les trucs suisses, là. Pas le quartz.
Voilà.
À 12 ans, Carole Bouquet était championne. Mais championne de quoi?
De karaté.
De gymnastique,
GRS.
De danse.
De twirling bâton.
GRS.
Ils l'ont dit.
De gym.
GR.
Gym. C'est pas de la gym.
C'est de la danse.
Non.
C'est pas de la gym rythmique.
GRS.
Non. C'est du poids.
Barre asymétrique.
C'est un agrès spécifique.
Continue sur le lancer du poids.
Lancer de javelot.
Non,
le disque.
Lancer de twirling bâton.
Non.
Le majorette.
Ça se passe où?
Le marteau.
Oui, mais c'est...
Athlétisme.
Voilà, voilà, je préfère l'expression athlétisme.
J'ai oublié pour ça. Oui,
là, rien à voir avec la gym.
Rien à voir, rien à voir avec la gym.
Non, non, c'est pas la gym.
Rien à voir avec la gym. Pour moi.
Non, mais la gymnastique rythmique et sportive, ça se fait d'abord en salle,
ah oui,
avec des cerceaux, avec des ballons, avec des rubans. Ça n'a rien à voir avec courir, avec sauter.
C'est ce que je suis en train de faire, Nagui.
Pour faire de la gère, il faut courir, sauter.
Mauvaise foi totale. Et alors, ce qui est incroyable, c'est que vous étiez doué pour l'athlétisme, mais que vous avez abandonné à cause du regard des autres, ou de l'absence de regard des autres.
Oui, c'est-à-dire que dans mon école, parce que j'étais pensionnaire, j'ai trouvé qu'ils ne manifestaient pas assez leur...
reconnaissance.
Oui, c'est-à-dire que je ramenais des coupes et ça ne faisait... Oui, s'en foutaient éperdument. Alors, voilà. Pour moi, toute seule, c'était pour faire plus, pour faire plaisir aux autres. Indépendamment du moment où vous le faites, c'est très satisfaisant. Mais j'avais pas non plus une famille qui me poussait à ça. Et donc, quand
vous auriez
aimé plaisir
un bravo,
à personne.
Un bravo, tu as gagné.
Oui, quoi. J'aurais aimé qu'on me dise merci, c'est-à-dire pour l'école. Ça me fait plaisir. Rien. Alors, j'ai arrêté.
Très bien. Michel Blanc aimait ou aime encore faire quelque chose tout seul. Mais quoi? Non.
Aller dîner au restaurant.
Non.
Partir
cuisine,
en vacances.
Non,
exactement. Partir en vacances aussi, chouette.
Non, enfin, j'aime. Je ne déteste pas.
Non, mais voyager seul, c'est
quand je travaille.
Bien partagé.
Non, quand je travaille. Non, mais j'adore partir avec ma compagne. C'est très agréable. Hein. Mais quand
t'as intérêt si tu veux rentrer ce soir à la maison.
Sinon, ça va chier. Mais quand je suis en train d'écrire, par exemple, écrire à la maison, c'est difficile parce que ou bien elle est là et j'ai plutôt envie de discuter avec elle, ou bien elle n'est pas là, je suis dans une maison triste et vide et seule. Donc, voilà, on prend un
alors
avion,
si c'est
on travaille
un nouveau, si c'est un nouveau lieu, vous n'êtes pas triste d'être
non.
seul.
Si je suis dans une chambre d'hôtel, dans une grande ville dont je tirais le nom, par exemple, New York, je ne suis pas seul, on est nombreux autour, et je me sens stimulé.
D'accord. Alors, tout sauf la campagne, je vous le dis.
Ah oui, attention, la campagne, je n'écris pas un mot. Hein.
Parce qu'il vous faut de l'effervescence.
Il est la campagne.
Oui. C'est triste, ça.
Non, c'est la campagne qui est triste.
Vous allez au jardin des Tuileries de temps en temps ?
Vite.
Non.
J'ai habité en face.
Là, c'est grave.
Pas les arbres.
À propos de Carole Bouquet, que lui a dit un jour Louise Buñuel ? Fais attention à toi. Je vous demande de compléter la phrase. Fais attention à toi. Tu ressembles à une de mes actrices qui
est morte ?
Que j'ai épousée.
Ouais, donc il est mort. Ouais.
Non, oui, c'est ça.
Ouais, qui s'est pendu carrément, c'est violent.
Ouf. Oui, quand vous avez 18 ans et que vous le prenez presque pour un magicien, d'ailleurs, je me suis dit, parce qu'il ne m'a pas dit que ça, il m'a dit d'autres choses qui me sont arrivées d'ailleurs. Mais
prémonitoire, vous voulez dire ce qu'il vous a raconté?
Il m'a par exemple parlé, alors je n'avais pas la moindre idée que la mode, ni les parfums, ni rien, il m'a parlé du contrat Chanel, oui.
Non, il vous a dit un jour vous serez égérie d'une marque.
Oui, c'est-à-dire qu'il me trouvait, moi je me voyais pas, mais il me trouvait tellement française et de façon classique que
vous incarniez la femme française et que donc un jour vous seriez égérie.
Moi qui étais baroque quand j'avais 18 ans, je voyais pas ça bien sûr. Mais
pardon, c'était pas de la prémonition de médium.
Non, pas du tout. Il avait 77 ans, j'en avais 18 comme vous. Vous pouvez maintenant regarder des jeunes gens quand ils ont 17 ans. Non, pas 77 ans, mais même à notre âge, on peut déjà.
Michel,
tu
te prends mal.
Non, c'est pas ça.
C'était
vachement bien conservé.
Rassurez-vous, les crèmes sont très efficaces.
Mais même nous aujourd'hui, quand on voit des adolescents, c'est vrai qu'on peut projeter plein de choses et voir dans quelle direction ils vont aller, là où ils se trompent, même ils nous écoutent pas forcément. Mais c'est vrai qu'on sait plein de choses parce que le temps a passé un peu déjà.
Mais alors de là à dire, et comment l'aviez-vous vécu
J'ai pas compris pourquoi il me l'a dit.
Tu ressembles à une actrice qui s'est pendue. Ça voulait dire quoi dans ça?
C'est un compliment.
Je suppose qu'il voyait une fragilité.
Ça voulait dire soyez prudente, faites attention, parce que voilà, c'est ça.
Oui, ça voulait dire ça. C'est vrai que c'était dit de façon peut-être un peu maladroite, mais ça voulait dire ça.
Un peu direct.
Non, mais si c'est aussi dans l'idée de protéger.
Mais il y avait, mais il n'y avait pas que ça dedans. Il y avait justement tout ce qu'il imaginait pour moi. Tout en me disant, effectivement, dont la pendaison.
Peut-être de crémaillère.
En disant, voilà.
Michel n'est pas toujours très détendu. Michel Blanc n'est pas toujours très détendu et il a une bonne raison.
Il n'aime pas la campagne.
Alors oui.
Il est allergique à pas mal de choses.
Non.
Malade, hypochondriaque.
Exactement.
Voilà. Ça, alors là, c'est un mystère pour personne.
Non.
Surtout pas pour les gens qui m'entourent et qui morflent.
Mais vous avez peur de tout? Ou vous êtes en permanence persuadé d'avoir quelque chose?
Je suis en permanence. Le moindre symptôme est forcément le début d'une longue et douloureuse maladie.
Ah là là là.
Voilà.
Que ça soit une petite démangeaison ou pire,
Mais est-ce qu'à l'inverse, tu passes pas ta vie chez les médecins pour autant?
Bah, j'y vais bien souvent.
Ah,
hein,
ah, oui. Oui.
Et à l'inverse, si vous entendez parler d'un syndrome, si vous entendez un médecin ou une émission médicale, vous vous dites ah oui ça je l'ai ça.
Non. Pas dans ce sens-là.
D'accord. Ok.
Et je ne regarde pas sur Internet pour vérifier mes symptômes.
Oui, parce que tout le monde
on a tout.
On a tout à ce moment-là.
Et en ce moment, vous avez quoi, Michel?
Rien.
Je peux pas en parler. Cette c'est très intime.
Et vos oreilles qui saignent depuis le début de l'émission, ça vous inquiète ou pas?
Ben oui. J'ai voulu enlever les boules caisses avec une pince à épiler. Et puis, voilà. Je suis un peu blessé.
En ce moment, je ne sais pas si vous êtes dans un état fébrile, confiant ou vous avez le trac pour mercredi.
Bah oui. C'est juste 2 ans de ma vie. Et comme maintenant j'arrive à un moment où, comme au Scrabble, c'est des années qu'on triple, donc.
Cinquième long métrage en tant que réalisateur, on l'a attendu, celui-là, ça fait combien d'années?
Moi aussi.
15 ans.
10 ans, 12 ans?
15 ans.
En fait, on l'a tourné en 2001, parce que je tournais avec cette merveilleuse femme.
Carole
Bouquet.
Quand
les tours sont tombés, il n'y a pas de lien de cause à effet.
Non, mais en tout cas, c'est un élément marquant de votre mémoire.
Parce que je me rappelle très bien où on tournait, derrière la maison et tout. Enfin, c'est des images. Tout le monde sait où il était.
Le jour du World Trade Center, oui.
Et voilà. Donc, en fait, le tournage date de 2001. Et ce tournage-là date de 2017.
D'accord. Donc ça a été une longue réflexion. Ce n'est pas vraiment la suite d'Embrasser qui vous voudrez. Vous avez même dit aux comédiens au moment de tourner, ne pensez pas que c'est la suite d'un film, mais on se retrouve 15 ans après avec chacun son vécu, son parcours.
Oui. Alors, pour être clair, dans le premier, il y avait beaucoup de personnages. Sur ces personnages, tous étaient des acteurs formidables. Qui ne sont pas dans ce film-là, Denis Podalydès, Lou Doyon, Vincent Elbaz, enfin j'arrête là. Le problème, c'est qu'il y avait des personnages...
Petite parenthèse, pour lesquels vous avez pris le temps d'écrire une lettre pour leur dire...
Pour leur expliquer pourquoi...
Ils ne seraient pas dans le film.
Oui, voilà, que c'était,
non, mais c'est que très, c'était pas très poli de votre part.
Ouais. C'est la moindre des choses, qu'ils ne le prennent pas comme, il n'a pas aimé ce que j'ai fait, ce qui est tout à fait le contraire. Mais il y a des personnages dont j'avais l'impression qu'ils avaient fait leur parcours. C'est-à-dire qu'ils étaient... si je les ramenais dans ce film-là, là, c'était une suite. Parce qu'ils recommenceraient à faire la même chose. Le mien, par exemple.
C'est-à-dire qu'ils personnage. Ne pouvaient pas évoluer...
D'accord. Là où ils étaient, le parcours était
L'histoire
terminé.
L'histoire était close. Ouais.
Voilà. De même que Denis Podalydès, par exemple, qui jouait le mari de Karine, si je le ramenais avec Karine, leur couple, c'est-à-dire les scènes entre deux, seraient les mêmes. Parce que alors qu'elle seule, face à de nouvelles emmerdes, si j'ose dire... Voilà. Donc, c'est comme ça que ça s'est produit. Donc, pour moi, j'ai pris des personnages et j'ai par exemple le personnage de Carole qui est heureusement a priori débarrassé de moi dans celui-là en tant que compagnon récolte quelque chose qui est pas beaucoup mieux que Jean-Paul Rouve.
Pas du tout mieux.
En fait, il y a une sorte de chamboule-tout. C'est rien ne va pour personne dans ce film, quelle que soit la situation vécue, celle de Karine Viard, la vôtre, Carole Bouquet, celle de Jacques Dutronc je parle des personnages évidemment dans tout ça, qui se retrouve poursuivi par le fisc, Charlotte Rampling qui n'a jamais travaillé de sa vie, qui se retrouve à la tête d'une boîte. Enfin,
c'est une
descente aux enfers pour tout le monde.
Oui, et Karine. Plus que toutes, hein, et tous. Enfin, c'est-à-dire qu'elle n'a pas une seconde de répit, elle. Donc, autour, nos amis, on essaye avec nos problèmes chacun, parce qu'effectivement, nous non plus, c'est pas un moment de grand repos dans notre vie, mais on essaye de l'aider, mais ça va à une telle vitesse, elle, ce qui lui tombe sur la tête, les catastrophes, enfin, ou les catastrophes ou les événements, qu'on n'y arrive pas.
Le mensonge est la clé de tout, en fait. Oui, c'est ça, c'est le point de départ de tout, le mensonge.
Pour le personnage pour le couple Rouve Bouquet, oui. Pour d'autres personnages, c'est pas forcément.
Pour le couple, Jean-Paul Rouve, Carole Bouquet, il y a la paranoïa déjà de Jean-Paul Rouve qui est extrêmement drôle parce que
il peut. Il a la sensation. Il est
d'être suivi.
Pas pourquoi d'abord. Dans un premier temps, il se dit je suis en danger. Je crois que je suis suivi. Son fils lui dit tu devrais consulter. Ensuite, il se dit non, peut-être que je suis pas suivi, peut-être que je suis fou. Peut-être que je suis paranoïaque et voilà. Mais je vous raconte pas la suite parce que.
Ça c'est dû à ses mensonges.
Je vous raconte pas la suite.
Ça c'est dû à ses mensonges. C'est parce qu'il se met dans une telle situation à cause de ses mensonges, oui, qu'effectivement, il a de quoi devenir parano et angoissé, parce qu'effectivement, il, pour s'en sortir...
Non, mais les enfants aussi racontent des cracks.
Oui, tout le monde.
William Lebgill aussi, qui est super beau comédien.
Bah, c'est, c'est un mec merveilleux.
Vous l'avez repéré où et comment,
lui? J'ai repéré, avec William, c'est une histoire qui a commencé sur... Alors, c'est marrant, le film de Jean-Paul Rouve, Les Souvenirs, c'est Jean-Paul qui dirige. J'ai une... Mais très bref moment avec William. Il ouvre la porte de, c'est le colocataire de mon fils. Il me dit, il dit une réplique. Il joue au Game Boy. Il s'en va. Et je me suis dit, ce type est formidable. Je suis sûr que c'est qu'il est formidable.
Sur une réplique, vous êtes capable de voir si un comédien est bon ou pas.
Ah oui, oui, j'ai vu. Je me suis dit, il a une originalité, une profondeur, une justesse. Ouais. Bon. On se retrouve ensuite.
Ce qui est vrai. On peut le constater aujourd'hui. Ouais, absolument.
On se retrouve ensuite tous les trois sur, Aladdin, le 1. Où on joue tous les trois où on joue tous les trois ensemble.
Arthur Benzakem.
Oui, on s'amuse beaucoup. Et là, quand j'ai écrit, je me suis dit, moi, je veux les ramener dans la, dans cette histoire. Donc, j'ai ramené Jean-Paul et William dans l'histoire.
Alors, il y a aussi donc Véronique jouée par Karine Viard, où là, elle perd tout. Tout s'écroule, sa vie s'écroule en permanence. Ouais, c'est ça.
Mais
elle prend grave. Hein.
Elle prend très cher, oui. Mais la très belle phrase qui la résume, c'est Jacques Dutronc qui la prononce, parce qu'à un moment, Charlotte Rampling va le voir et lui dit.
Est-ce que t'as pas un boulot pour.
Tu sais, la phrase exacte, c'est Véro est dans une salle passe et Dutronc répond oui depuis sa naissance. C'est un peu le personnage résumé.
Que ça va pas s'arranger.
Non.
Non,
elle.
C'est cruel.
Pour elle.
Pour votre personnage.
Oui, pour elle. Elle n'en ressort pas libérée, si j'ose dire.
En fait, elle est costaud, hein, parce qu'elle continue quand même à.
Ah oui, c'est quelqu'un. Hein.
Elle accepte tout et elle garde la tête haute malgré la situation.
Moi, je crois que je serais couché avec des médicaments.
En dépression. Charlotte Rampling et Jacques Dutronc forment donc ce couple très, très BCBG, très riche, homme d'affaires, femme d'affaires, sauf que lui a des problèmes avec le fils qui est obligé de s'enfuir elle reprend la société alors qu'elle n'a jamais travaillé de sa vie.
C'est-à-dire qu'elle fait potiche, quoi. Elle le dit elle-même. Mais Dutronc lui dit tu le fais tellement bien, tu le fais merveilleusement bien, ma chérie. Donc,
c'est vrai que vos personnages masculins sont quand même assez particuliers. C'est-à-dire que Jacques Dutronc ne dit pas à sa femme qu'il a des ennuis, il annonce qu'il va chercher quelque chose, il disparaît du jour au lendemain. C'est le courage incarné.
Oui.
Jean-Paul Rouve n'est pas complètement clair dans sa vie.
C'est-à-dire qu'il ment à deux femmes, Jean-Paul Rouve. On peut le dire, c'est dans la bande-annonce. Ouais. Donc il a une femme, une maîtresse, et ils ment aux deux. Et
donc les hommes sont plutôt l'honneur, quoi.
C'est pas les piliers du groupe, disons que.
Et alors, sauf le fils, votre personnage, oui, pardon.
Guillaume Labbé, pardon. Ouais. Sauf le fils, Loïc, qui est le seul mec qui entretient sa famille, c'est-à-dire sa mère et sa jeune sœur.
Qui est VTC.
Qui est chauffeur de VTC, oui, et qui travaille jour et nuit. Et,
oui, mais là aussi, il y a une ambiguïté. Oui. On ne dira pas tout.
Non,
on ne dira pas tout.
Fin.
Voilà. Oui. Mais chacun a ses petits secrets ou ses petits mensonges de société. Oui, voilà. Après,
vivement la suite dans 16 ans.
C'est une question d'éducation.
S'ils sont encore vivants, puisqu'il leur arrive.
Et Carole Bouquet, votre personnage dans ce film, vous êtes la méchante ou la gentille? À votre avis, parce que
je suis plutôt gentil.
Non, mais vous voulez
ce que je fais, régler, oui, ce que je fais, oui, mais là, il le mérite. Enfin, je veux dire, ce que je fais à mon compagnon, qui est Jean-Paul Rouve, dans ce film, là,
il
c'est
mérite.
La moindre des choses,
oui,
quand même.
Oui, là, on la comprend, pousse, on est avec elle.
Oui, oui. Mais en plus, c'est fait quand même avec. Enfin, c'est vrai qu'il le prend pas très bien, mais c'est fait avec humour, normalement. Je comprends qu'il soit pas très heureux du résultat, mais quand même, c'est vrai qu'elle pourrait faire bien pire.
Mais ça, le problème,
elle
c'est
se sent
que ça
quoi? Elle se sent blessée, elle se sent trompée, elle se sent.
Bah, quand quelqu'un vous ment à ce point-là.
Et quand on l'entretient,
je sais pas comment on le prend d'ailleurs, parce que c'est un tel mensonge. Si on me mentait
à ce point,
moi je suis pour le mensonge dans le couple, mais
on a l'impression que vous lancez une pétition.
Oui, je suis pour le mensonge. Non, mais je le recommande. J'ai recommandé.
Pourquoi?
Oui, oui. Bah parce que c'est plus facile pour tout le monde, c'est plus agréable.
Alors vous avez le hashtag #LieTo.
C'est pas #MeToo, c'est #LieTo. Je trouve que c'est pas la peine de tout se dire et que quelquefois on fait beaucoup de mal en voulant et soi-disant être honnête. Ça vous fait du bien à votre propre conscience, ça fait pas forcément du bien à celui à qui vous parlez ou celle à qui vous parlez.
Il y a peut-être deux degrés. Il y a le degré de la diplomatie, c'est-à-dire ne pas tout dire, et le degré du mensonge qui est de tromper de faire du mal au
couple. J'ai l'âge, je suis assez pour le mensonge. Je n'ai pas dit ça du tout à 20 ans. Hein. Du tout. Et quand je dis ça à mes fils, ils sont outrés.
Mensonge en toutes circonstances, donc.
Non, pas dans toutes circonstances.
Même là, on ne sait pas si elle dit la réalité. C'est pas si elle le pense. Ah, c'est
mais dans un couple, je trouve que ce n'est pas la peine de tout se dire.
D'accord. Au moins les prénoms, quoi.
Non, même là, faut mentir.
Le film s'appelle Voyez comme on danse, et il faut préciser que c'est une adaptation de James Connelly.
James Connelly a écrit un bouquin qui était dans déjà lequel il y avait ses personnages embrassé. et qui est devenu Embrasser qui vous voudrez. Et moi, j'ai demandé l'autorisation.
Il y a 15 ans, donc.
Voilà. J'ai demandé l'autorisation à l'auteur, à Connelly, Joseph.
Joseph, pardon, pas James.
Ouais, parce que d'un seul coup, j'ai eu un doute. Donc je lui ai demandé, est-ce que vous m'autorisez à reprendre certains des personnages avec leurs caractéristiques?
Comme s'il avait écrit une Bible, en fait, et que vous écriviez un nouvel 15 ans après la situation. Tout en gardant le cynisme...
Il est moins cynique que le premier, parce que je suis moins cynique que les Anglais.
Mais il est plus fou. Je le trouve plus délirant.
Plus cynique que cynique.
Voilà. Et qu'en pense Joseph Connelly?
Il a pas vu, il a lu le scénario, il m'a pas empêché de le faire, donc il devait aimer. On lui a pas encore montré puisque
il y a un droit moral dans ce situation.
Oui, bien sûr. Auteur, mais à partir du moment, c'est pour ça qu'on lui a envoyé le scénario dès que la version à peu près définitive a été.
Mais malin, vous l'avez envoyé en français pour pas qu'il ait le temps tout de suite.
Non, mais il le lit en braille. Hein,
Père Albert. Ce film est un succès annoncé.
Mon cher Nangui,
oui, mon père.
J'avais beaucoup aimé Embrasser qui vous voudrez, le précédent film de Michel Blin. Coucou Michel. Coucou. Avec déjà Carole Bouquet. Coucou Carole. Et à nouveau, je n'ai pas été déçu par ce nouvel opus, comme dirait Leila, qui a fait latin première langue. Je n'ai pas été déçu par Voyez comme on danse, qui nous emporte dans la valse tourbillonnante des égarements du cœur et de l'esprit, le chassé-croisé des attachements et des trahisons, le mambo de la parano, la gigue de la duperie, le quadrille des mensonges, sans oublier le rigodon rigolo des quiproquos. J'aurais fait un bon critique cinéma à France Inter.
Non.
À la place de Laurent Delmas, non. Christine Masson. Et non. Oui, je le confesse, ce film choral, je l'ai aimé. Bien qu'on ressorte fissuré, souillé, salopé, ce qui constitue le socle fondamental de la famille, à savoir un papa, une maman, un papa. Malgré cela, j'ai donc aimé ce film et la scène étrange à laquelle j'ai assisté tout à l'heure dans le bureau de la bande originale m'a interloqué, Nangui. Quand vous avez demandé à Jean B, notre rédac chef aux cloisons nasales effondrées, dis-moi, Jean B, je vois que 15 ans se sont écoulés entre Embrasser qui vous voudrez et Voyez comme on danse. 15 ans, même 16. Michel Blanc, c'est vraiment une feignasse ou un laborieux. Ou alors les deux. Ah, et puis les titres de ces films, ça te rappelle pas quelque chose? Mais oui, maître, entrez dans la danse, voyez comment on danse, sentez danser, embrassez qui... Mais tais-toi, ça me fait saigner des tympans. C'est vraiment une feignasse. Même pour les titres, il se fatigue pas, Michel Blanc. Son prochain film, dans 16 ans, en 2034, il s'intitulera sûrement Nous n'irons plus au bois. Et à part Carole Bouquet, qui est d'une éternelle fraîcheur, je te dis pas la tronche des autres, hein. Surtout celle de Michel Blanc. Voilà, cher Michel, chère Carole, comment se prépare la bande originale. Alors, je n'ai pas le temps de vous proposer une confession flash, mais comme nous évoquions la danse, je signale que dans ma camionnette au Monnerie, garée au bois de Boubou, j'organise pour mes jeunes en recherche un stage d'initiation à la bourrée. Mais attention, pas l'auvergnate, la congolaise, qui est mal connue et pourtant tellement rythmée, ça ondule sec. Je l'ai apprise quand j'étais père blanc dans la banlieue de Brazzaville. Oh, il faisait chaud, j'étouffais. 44 sous-abri, 55 sous ma soutane. Allez, bonne émission.
Comme vous l'avez dit, nous n'irons plus au bois. Merci.
La boule originale, lundi, sur
France Inter.
Il a pas juste faire une petite mise au point. C'est vrai que j'ai, comme j'ai déclaré tout à l'heure que j'étais pour le. Comme c'est toujours repris ce qu'on dit et que quelquefois on le dit.
C'est trop tard.
Non, mais on a pas de mise au point sur toi. C'est jamais repris.
Non. Ça va me poursuivre pendant toutes les années à venir.
Mais allez au bout de votre phrase quand même. Ici, vous pouvez parler.
Non, je voulais mettre une nuance, c'est-à-dire on pouvait, à part le mensonge, on pouvait aussi, par exemple, ne rien dire, on n'est pas obligé de mentir.
Voilà, l'omission. C'est ce que l'omission. Je disais.
Voilà.
J'appelais ça la diplomatie.
Ah, voilà. C'est ce que vous appelez la diplomatie, vous?
Bah oui, les diplomates se disent jamais la vérité. Quand vous voyez des hommes politiques de différents pays se serrer les mains, se faire des accolades, et puis une fois qu'ils sont plus ensemble, chacun envoie un scud à l'autre. Oui,
c'est pire. Excusez-moi, c'est pire que mentir, ça. Hein. En plus, il y a la duplicité, ce que vous me proposez est pire.
Je propose rien.
Moi, je trouve que c'est fort ce que vous êtes en train de faire. Hein. Vous commencez par vous excuser et vous pourrissez Nagui après.
Je propose rien. Moi, contrairement à vous, mais suis-je naïf, je suis pour la transparence totale et la vérité totale.
Eh ben, c'est ce que je dis.
Non, je suis pour la vérité totale. Ni la diplomatie, ni le mensonge.
C'est vrai que vous êtes très transparent, Nagui.
Il est d'une naïveté.
Non, je parle du couple, je parle pas avec toi, vieux.
Couple.
Oui, du couple, tu sais pas ce que c'est.
Oui, mais moi, je pense comme vous, donc ça revient au même.
D'accord.
Et justement, jouer un personnage qui ment comme ça constamment. Je me demandais, Michel Blanc, quand vous êtes derrière la caméra, bon, vous avez une petite apparition, quel est le personnage que vous aimeriez incarner s'il fallait tout d'un coup poser le scénario sur la table ?
Celui de Jean-Paul Rouve,
non, celui de Charlotte Rampling.
Pourquoi ?
Parce que c'est la personne qui est la plus loin de moi.
D'accord, donc c'est d'accord.
Dans le bon sens, parce qu'elle est magnifique, mais ce côté anglais, un peu, c'est vraiment quelque chose. Et animal à sang-froid, c'est vraiment quelque chose que j'ai pas.
Les formes géniales.
Tout le monde me dit, mais oui, elle est formidable, mais tout le monde.
Les répliques.
Il y a un casting de dingue. Je ne comprends pas comment les acteurs et les actrices vous font confiance. Oui, ça me choque. Mais il y a un casting de dingue. C'est personne.
Mais c'est l'aide de la mafia russe.
Et de Poutine. que nous vénérons tous.
Grâce à Trump.
Ouais, c'est ça aussi.
Donc oui. Non, Jean-Paul Rouve.
Tout le monde vous dit que vous pourriez être.
Ouais, tout. Mais le nombre de fois dans les interviews, on m'a dit, mais en fait, le rôle de Jean-Paul Rouve, c'est un rôle que vous auriez pu jouer il y a quelques années. Alors ça me gonfle un peu, c'est la deuxième partie m'énerve, mais c'est vrai qu'il est plus jeune que moi.
À peine.
Ce con. Mais, et j'y ai pas pensé une seule seconde en l'écrivant.
D'accord.
J'ai écrit pour Jean-Paul et avec l'idée de qu'est-ce qui pourrait, voilà, où est-ce que je pourrais l'embarquer.
Le gros avantage, c'est que vous avez écrit en sachant quelle serait l'actrice ou l'acteur des personnages.
Ah oui, ça c'est extraordinaire et en même temps, comme dirait notre président, c'est très très angoissant parce que si un d'entre eux vous dit non, le scénario et quelques mois de travail peuvent partir à la poubelle. Et d'ailleurs, je n'ai eu de contrat que quand on était sûr que
tout
Mademoiselle
était
Bouquet, Mademoiselle Rampling, Mademoiselle Viard, Monsieur Dutronc, enfin bref, serait partant. Donc c'est
parce
pas le
si
truc.
L'an, si l'an refusait,
le film ne se faisait pas.
Carrément. Oui. Ah bon, en leur disant ça, vous leur mettiez une pression suffisante.
Non,
ils
le savaient pas.
Non, il nous l'a pas dit. Non.
Il est élégant quand même.
Oui, il est très élégant.
Oui, puis la production.
Et il est tellement doué, indépendamment de ça, pour diriger les acteurs. Et moi, j'aime ses films, donc de toute façon, je l'ai pas lu avant de lui dire oui.
J'ai
dit oui.
Puis mais là, elle m'a menti, par exemple.
Il venait de passer 15 ans à l'écrire. Ouais. Je me suis dit quand même qu'il avait dû pondre quelque chose qui était pas mal. Hein, il y a eu le temps de
relire. Il n'y a pas vu une campagne pendant 15 ans.
Voici Jérémy Camus.
Ah, les amis, j'ai un scoop. Samedi, j'ai bu de l'eau. Je t'expliquerai ce que c'est à la pause de l'eau, Leïla.
Oui.
Alors, attention, ça n'était pas n'importe quelle eau. Non, c'était une eau à 2,25€, les 50 centilitres. Ouais. Ouais. Eh oui, seulement 50 centilitres, 2,25€, d'eau minérale. On se dépêche de les acheter. Pendant 10 minutes, les frais de port sont offerts. Et pour l'achat de 2 bouteilles, vous recevrez en cadeau un essuie-tout. Appelez-nous. Voilà, je me suis dit qu'une mauvaise imitation de Pierre Bellemare animerait un peu ma chronique. Tremble,
non.
Nicolas
non.
Canteloup. Revenons-en à l'eau. Allô? Oui, non, il n'y a personne, pardon. Mais quel bout en train, Scradville. Je vous invite d'ailleurs à vous renseigner sur l'origine de cette expression. Alors, je suis plutôt nul en maths, mais 2,25€ les 50 centilitres, ça fait environ un demi-rein le litre. Hein. quand l'hôtesse de caisse m'a demandé 2,25€ pour cette petite bouteille d'eau, je n'ai pas pu m'empêcher de lui dire mais attendez, on est en quelle année? Non mais je veux dire, l'eau n'est pas rare ici, j'ai pas croisé de chameau dans la file. Je suis pas bédouin, madame. Bon, bah, écoutez, je vais aller sucer un caillou. Parce que non mais 2,25€ pour une eau, tout ce qui est plus normal, hein, c'était pas de l'eau de lune. Je veux dire, c'était une bouteille d'eau normale, achetée en gare de Lyon. Hein, je me suis dit, tiens, si la SNCF fait des barrages avec cette eau, ils auront peut-être des prises de courant qui fonctionnent dans les reins. Dans les rames. Dans les reins. Heureusement que je voulais pas un pack de 6 parce que j'avais qu'un billet de 10. Vous vous rendez compte, un mec qui fait la manche avec un ticket resto, il peut boire 1,5 litre le vénard. C'est fou. Au prix de cette eau, autant se mettre au clope. Je sais, hein, c'est pas très sain, mais tu meurs plus vite. Donc, logiquement, en une vie, tu dépenses moins. Parce que c'est vrai, quand t'es mort, t'es moins dispendieux. Hein, vous verrez dans 2 ans, monsieur à gauche. Cadeau. Et parfois, mort, tu gagnes même plus d'argent. Un chanteur mort peut vendre des disques. Moi, si je meurs, les gens n'achètent plus de place pour mon spectacle.
C'est sûr.
Et donc, les ventes seront caduques. Pour l'instant, je suis bien vivant. Et à ma mort, pour prouver ma générosité, il y aura une grande fête avec des pichets d'eau de la gare de Lyon. Alors, je me suis renseigné. Il faut savoir qu'une petite bouteille d'eau à 2,25€, en fait, c'est comme une petite bouteille d'eau, mais plus chère. Voilà. C'est une eau goût d'eau. Hein. Je m'attendais à une note de safran ou de truffe. Là, non. Je veux dire, un alcool, quand tu mets un peu d'argent dedans, tu voyages. L'eau, ça devrait être pareil. C'est pour ça que dans le mot alcool, il y a cool, alors que dans eau, il y a EAU. À la réflexion, j'avais peut-être acheté une I.O. Vous pensiez que ceci n'était qu'une bouteille d'eau? Loupé. En réalité, c'est de l'H2O. Plus performante qu'une eau classique, l'IO vous hydratera instantanément quand vous la boirez. L'IO étant à l'état liquide, nos ingénieurs ont travaillé d'arrache-pied pendant des mois pour créer le contenant idéal, l'I-bouteille. Pour boire l'IO, il suffit d'ouvrir le bouchon de l'I-bouteille. Approchez le goulot de votre orifice buccal, penchez l'I-bouteille, déglutissez et sentez ce bon goût de rien. L'IO, c'est de l'eau, mais c'est cher. Voilà, en tout cas les amis, profitez de l'eau potable dans vos robinets, elle est parfois beaucoup moins gavée de traces de résidus de plastique que celle en bouteille, et surtout, respirez tant que l'oxygène, c'est encore gratuit.
Merci.
La bande originale.
Carole. Mais en plus, vous savez combien m'a coûté il y a 2 jours la bouteille d'eau, celle-là, la même que
non.
Vous, dans, justement dans,
la
dans le TGV? Eh ben, 10 euros.
10 euros.
Non, non, c'est pas si, possible. Si, si, parce que.
Inouï.
Ça s'appelle mal. Ils ont vu Carole Bouquet.
Si, pour
ça. Ça m'a fait rire, parce que c'est dément. Oui, il m'a dit, mais j'ai pas la monnaie. J'avais 20 euros, j'ai pas la monnaie. Je lui dis, mais oui, j'ai quand même très soif. Il m'a dit, bah oui, bah, je sais pas, qu'est-ce qu'on fait? Bah, je sais pas, qu'est-ce qu'il vous avait. Il me dit, j'ai 10 euros.
Aïe, aïe, aïe.
Donc, je suis parti avec 10 euros.
Prendre d'autres choses. Prendre d'autres bouteilles.
Un sandwich, un croque.
Ah, j'ai pas pensé à ça, mais j'ai pas envie d'autre chose. J'aurais pu faire distribution, oui, effectivement.
Des bombes ou n'importe quoi.
Oui, mais j'avais pas du tout. Donc ça m'a coûté 10 euros. Je l'ai dit après gentiment hein, au contrôleur. Je dis, c'est un peu cher l'eau dans le train. Là, et je lui dis, il a pas bronché. Hein.
Oui, madame, c'est cher. Au revoir.
Mais parce que je crois que le contrôleur n'a rien à voir avec le wagon restaurant. Ouais.
Non, bien sûr.
C'est
mais
une société à part.
Ils
veulent pas d'emmerde dans les contrôleurs. Non, là, il y a le monsieur à côté, il m'a planté un couteau. C'est pas mon boulot. Vous avez oublié? Ça, c'est mon boulot.
Le couteau, c'est une autre société.
Oui.
Voyez comme on danse. Tout à l'heure, Albert Algout faisait une allusion au choix et à la manière dont vous choisissiez vos titres. Comment celui-ci est venu?
Ah, mais tout naturellement, c'était le titre du premier.
Du premier, c'est ça, oui.
C'est-à-dire que, en fait, le premier devait s'appeler « Voyez comme on danse ». Et il se trouve que notre ami Jean d'Ormesson a écrit pendant ce temps-là un bouquin. Moi, je ne savais pas. On était au milieu du tournage, donc vers le mois de juillet, et la rentrée littéraire se faisant vers septembre, ont été annoncés les titres à paraître. Et on a vu que Jean d'Ormesson sortait un roman sous le titre « Voyez comme on danse ». Donc on s'est dit, ça c'est une catastrophe, parce que même si on a le droit d'utiliser les titres dans... Mais, le problème, c'est que on s'est dit,
il y a une confusion dans la tête des gens.
Et bien sûr. Dieu sait qu'entre Embrasser qui vous voudrez et l'œuvre de Jean d'Ormesson, que j'aime beaucoup d'ailleurs, que j'aimais beaucoup en tant qu'homme, il y a quand même un petit. Donc on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors j'ai réfléchi, je dis, mais dans la même chanson, il y a Embrasser qui vous voudrez, ça correspond mieux d'ailleurs au premier, et celui-là correspond mieux au deuxième. Et donc voilà pourquoi c'est.
Et à l'époque, pourquoi être parti sur la comptine justement?
Parce que Voyez comme on danse, c'était un peu le même principe. Il y a quand même un côté mensonge, virevoltage dans le premier. Alors il n'est pas tout à fait le même que celui-là. Et en fait, Embrasser était plus adapté parce qu'effectivement, leurs préoccupations quasi première à tous, c'est de
l'amour.
C'est oui, l'amour ou les coucheries ou les. Alors que dans celui-là, c'est autre chose. C'est d'essayer de retrouver l'équilibre. De. En fait, ils dansent sur des braises, quoi. S'ils s'arrêtent de danser, les pieds brûlent. Donc.
Ah ça, non, mais c'est... l'image de retrouver l'équilibre, c'est exactement ça, parce qu'ils sont tous chahutés. D'ailleurs, qui est le plus normal à vos yeux dans le film, parce qu'ils se prennent des claques de partout.
Le fils.
Alex.
Le fils.
Oui. Enfin bon, avec ce. Alex, il est normal, il a juste une réaction un petit peu de malvenue quand sa fiancée lui annonce qu'elle a oublié de lui dire qu'elle était enceinte depuis 4 mois. Et il est, au lieu de.
Là, il est d'une maladroit,
violence,
il
une maladresse ouais, terrible.
C'est un minot.
Oui, mais c'est un gentil.
Oui, ouais, c'est ça.
Ah ouais, non, mais lui, il est... ouais. Et après, il le paye très cher aussi, d'ailleurs. Tout le monde paye ses conneries très cher dans ce film.
Une morale, peut-être ?
Peut-être que je vais payer très cher ce film.
Voyez comment on danse. C'est au cinéma ce 10 octobre. Film 2, Michel Blanc. Alors vraiment, un scénario, adaptation, dialogue. Vous avez fait la totale, Michel. Vous avez également réalisé. J'imagine que la production, vous y êtes aussi un tout petit peu pour quelque chose. Entouré de Karine Viard, Carole Bouquet, Charlotte Rampling, Jean-Paul Rouve, William Lebguil, Jacques Dutronc. D'ailleurs, retrouver tout ce casting incroyable et trouver les dates qui peuvent correspondre à leur emploi du temps, ça n'a pas dû être simple.
On a attendu. On a attendu qu'il y avait une espèce de fenêtre de tir comme à,
un bon doodle.
Comme à Kourou. En Guyane, que voilà. Heureusement, il y en avait une où tous ces gens-là.
L'alignement des planètes, ouais.
Oui. Il y a eu une période, mais je pouvais pas dépasser.
Sauf Dutronc qui n'a pas.
Oui, mais faire venir Jacques de Corse, c'est.
c'est comme envoyer une fusée sur la Lune.
Là aussi, il y a une fenêtre de tir. Mais non, je l'ai appelé avant d'écrire. Hein, alors même, j'ai dit Jacques, si je réécris un rôle pour toi, est-ce que tu accepterais de venir? Et ça m'a beaucoup touché. Il m'a dit ouais, pour toi, oui. Donc,
il est tellement rare.
Ouais, tellement rare. C'est une belle rareté. Hein,
ouais, précieuse. Ouais, précieuse. La bande originale de cette émission en musique, nous allons avoir. Alors en musique, il y a quand même des musiques dans le film, pardon. Il y a IBI avec plusieurs titres. Duo de sœurs absolument merveilleuses.
Elles sont magnifiques.
Elles sont venues plusieurs fois dans cette émission en live. Comment vous les avez découvertes ?
Alors, c'est ma compagne qui m'a parlé d'elle à un moment où je n'avais pas d'idée préconçue.
Dans une interview, vous avez dit ne pas aimer finalement les BO de films.
Non, ce que je n'aime pas, c'est les musiques qui tombent du ciel. Vous savez, la violonade qui vient sur un truc. Toutes les musiques
qui rajoutent des larmes à l'émotion.
Mais non, mais qui rajoutent pas.
Le violon, il y a des.
Oui. Mais parfois, c'est magnifiquement utilisé. Par exemple, 2001, l'Odyssée de l'espace, Kubrick, c'est Zarathustra, etc. C'est absolument.
Des hélicoptères sans musique, ça serait pas pareil.
C'est absolument extraordinaire. Bon, ce que j'aime pas, donc, c'est d'un seul coup une musique qui est un peu redondante, qui vous raconte ce que, normalement, si vous n'avez pas été trop maladroit dans l'écriture, vous avez déjà raconté.
D'accord.
Par contre, elles sont toujours motivées, justifiées, je veux dire. Par exemple, les IBI, la première fois où on les entend, c'est la musique. Alors, il y a une petite tricherie, mais c'est la musique que la petite Eva, Jeanne Guittet, écoute dans son casque quand elle descend du TGV. Ensuite, c'est la musique qu'elle met chez son frère. Voilà. La musique de fin, où il y a... Alors, très loin de cet univers-là. Voilà. Ça, c'est un truc que...
Charlotte Rampling et Jacques Dutronc.
Je trouve que ça ressemble tellement au couple Rampling-Dutronc que j'ai eu tout de suite l'envie de Let's Face the Music and Dance, qui était à l'origine chantée par Fred Astaire. On a mis la version de Fred Astaire au début, mais elle est un peu plus lente. Et alors, ça plombait un peu la scène finale. Et
donc
on a trouvé celle de Nat King Cole.
Que voici. Ouais. On l'écoute un peu, quoi. C'est du bien.
Voilà.
Let's face the music and dance before the fiddlers have fled. Before they ask us to pay.
Tout ça dans une situation
paradoxale.
Paradoxale, voilà, exactement. À découvrir donc ce mercredi. On va continuer en musique cette fois-ci avec vos choix musicaux. Carole Bouquet, vous écoutiez à la fin des années 70 l'excellente Patti Smith.
Because the night belongs to lovers.
Quelles images avez-vous en écoutant Patti Smith?
Ça correspond à un moment de ma vie où je suis à New York et je tourne un film avec un chanteur punk qui s'appelait Richard Hell, qui travaillait à ce moment-là dans un club qui s'appelle The Bowery, qui était où chantaient tous les punks. Et où l'époque où c'est toute cette partie de New York était vraiment dangereuse, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, et où personne n'allait, et j'habitais à côté d'elle. Voilà, donc c'est pas pour ça que je l'ai mis là, hein, parce que j'adore cette chanson, mais c'était...
Formidable auteur, Patti Smith. Cette chanson est écrite par Bruce Springsteen,
oui.
Mais sinon elle, auteur même de pièces de théâtre.
Et de livres que j'aime énormément. Formidable. Le livre qu'elle a écrit sur Mapplethorpe est magnifique.
Ouais. Une vraie poétesse. Ouais.
Non, j'aime beaucoup cette chanteuse, oui, j'aime beaucoup.
Vous la connaissiez, personnellement?
On se croisait, mais ouais. On se connaissait pas, non, on se croisait, parce qu'à l'époque, on traînait toujours dans les mêmes endroits. C'était une ville assez village à ce moment-là. Hein. Il y avait une effervescence artistique qu'il n'y a plus maintenant parce que
Giuliani a été le maire.
Oui, c'est pas faux.
Je sais que c'est pas faux. Je dis rarement des conneries.
Sur la politique, nous, sur la politique américaine surtout.
Et dans ce village, vous avez croisé notamment Warhol, des gens comme ça.
Oui, c'est pas que je l'ai croisé, c'est qu'en fait, parce que le film de Buñuel sortait et qu'à ce moment-là, j'ai fait la couverture d'un journal qui était le sien, qui s'appelait Interview. Donc on a fait une photo. Et puis après, il se trouve que toutes sortes de gens étaient agglomérés autour de ce qu'on appelait la Factory. C'est-à-dire l'endroit où il travaillait. Mmh. Donc il y avait des chanteurs, des acteurs, et on se retrouvait tous les soirs.
Des Basquiat, enfin j'imagine.
Voilà, c'est ça.
Une effervescence incroyable.
Oui, mais incroyable pour moi.
Quand on vit ces moments-là, on se rend pas compte.
Non, pas du tout. J'avais 20 ans, je me rendais pas du tout compte de. Non. J'étais très intimidée parce que le metteur en scène avec qui je faisais un film à ce moment-là à New York m'avait dit, est-ce que tu connais Warhol? Enfin, je connaissais pas. Hein. C'est pas parce que j'avais fait une photo avec lui ou que j'allais à la Factory. Il y avait plein de gens, mais c'est pas pour autant qu'on était proches avec lui. Mmh. En plus, c'était quelqu'un de très secret et très discret, très gentil, mais très...
Timide.
Très timide. Mmh. Il m'avait dit, mais demande-lui de jouer un rôle dans le film. Je suis allée, il l'a fait, et j'étais morte de peur. C'est moi qui étais morte de peur, parce qu'il fallait que je pose des questions, je jouais une journaliste. Il n'y avait pas de texte écrit, il fallait que j'improvise, et je me suis dit, je ne vais pas y arriver, là. Mais effectivement, on ne se rendait pas compte. Moi, je dînais un soir avec Dali, je dînais le lendemain, oui, avec Warhol, toute la bande.
Et à cette époque-là, vous tournez avec Buñuel aussi.
J'avais fait cet accès à cause du film de Buñuel que je suis arrivée à New York.
Vous voulez pas écrire tout ça raconter pourquoi? Non. C'est passionnant. C'est passionnant parce que vous les avez vus, justement, de les ramener à une dimension humaine, normale.
Très normale.
Voilà.
Enfin, il y avait très normal. On était tous les soirs au studio 54, il y avait beaucoup de... Il y avait très normal.
Il y avait beaucoup de produits.
Vous dites que vous avez appris.
Il y avait une liberté. Ouais, le sida n'existait pas, c'est pas un détail. Donc il y avait une liberté et puis il y avait surtout un foisonnement artistique parce que la ville on pouvait y vivre, ça coûtait pas une fortune. Aujourd'hui pour vivre à New York ça coûte très très cher. Il y avait en ce moment-là toute une partie de la ville où vous pouviez habiter, donc il y avait une profusion artistique incroyable.
Et qu'est-ce que vous avez eu la sensation d'apprendre pendant ces années-là? À part les
que je devais rentrer en France apprendre à faire mon métier.
C'est vrai.
Oui, parce que on m'a proposé des films et moi à cette époque-là, c'est pour ça que j'ai failli mettre Bowie tout à l'heure. J'avais qu'une chose, c'était le film que Bowie avait tourné et Fassbinder, à qui je disais à l'agent américain que j'avais, je veux travailler qu'avec eux. Il me dit, ça va être difficile là. Et puis je me suis rendu compte, je faisais ce film en anglais que j'étais très mauvaise dans le film. Parce qu'il faut maîtriser très bien une langue étrangère pour être bon dans une langue étrangère. Parce que sinon, vous dites n'importe quoi. Il faut que votre esprit puisse, quand vous dites, ne serait-ce que le mot table, nous, naturellement, on se la représente, on a l'image. Vous le dites dans une langue étrangère, si vous n'êtes pas vraiment bilingue.
On joue moins bien, quoi.
On joue vraiment moins bien. Hein,
d'accord. Table, c'est pas le mot le plus dur à traduire non plus. Pour
non, 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 c'est pas une question de traduire. Vous c'est pour avoir l'image. Il y en a qui sont plus faciles. Et qui seraient peut-être moins faciles à dire, là. Mais. Non, pourquoi écrire, hein?
Genre punk en anglais.
Vous savez quoi? J'ai toujours pas compris exactement, d'ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire quand on me dit vous êtes punk?
Bon, c'est la notion, punk. La notion de j'ai... pas de futur, ouais, c'est nos futurs.
Nos futurs, mais c'est mieux ça. Punk, ouais. C'est mieux ça.
Aujourd'hui, c'est plus pas vraiment d'avenir. Ça. Dire ouais. à quelqu'un qu'il est punk, c'est lui dire qu'il est un peu rock'n'roll, qu'il est hors cadre, qu'il peut avoir une apparence hyper classique comme la vôtre, et qu'en fait, un petit côté déjanté qui est pas mal derrière, quoi. Je pense.
Bah, c'est mieux expliqué comme ça.
Elle explique beaucoup mieux que moi.
Non, mais vous, c'était bien aussi.
Merci, c'est pour ça qu'on est ensemble. Michel Blanc, vous écoutiez à l'époque.
Là, je pleure.
Je cherche le soleil au milieu de la nuit.
Et vous, Michel, dans cette période-là, vous êtes dans les bronzés, vous incarnez.
Fond du ski.
Voilà,
alors,
les bronzés, absolument.
En fait, ça, c'est un souvenir du tournage à Val d'Isère.
Ouais.
Pour une raison, j'étais parti. À l'époque, nous avions des mini-cassettes. Hein. J'étais parti avec quelques mini-cassettes classiques, mais j'avais pas pu en emmener beaucoup. Et j'étais allé.
Vous étiez quoi, plutôt BASF, Ferrochrome,
J'avais pas de référence.
C'est 90. Ouais.
Et donc j'avais du classique. Et puis je voulais écouter autre chose. Alors je suis allé au seul endroit de la seule boutique de Val d'Isère où il y avait des cassettes de musique et il n'y avait pas grand chose et puis je connaissais pas Starmania, alors j'ai acheté Starmania et puis je me suis mis à l'écouter. Pour moi je revois la chambre d'hôtel de Val d'Isère,
le tournage des bronzés fonds du ski avec la BO Starmania,
voilà, en fait. Absolument.
Vous avez 25 ans, Jean-Claude Duss, création d'un personnage qui nous reste encore aujourd'hui
à travers de la gorge,
ouais. Et en fait c'est marrant parce qu'en lisant les interviews je découvre que c'est une création qui est là aussi pour soigner, enfin qui c'est un personnage, cet homme que les filles ne voient pas, qui essaye de conclure à tout prix, ça dit quelque chose de vous, en fait.
C'est-à-dire que ça dit quelque chose parce que je me suis demandé longtemps, avant de découvrir le personnage, comment je pouvais faire rire. Parce que je ne faisais pas tellement rire sur scène.
D'accord.
Mes camarades juniaux, tout ça, au café théâtre, les gens étaient pliés en deux. Moi, j'arrivais, c'était à moitié des petits sourires ou carrément un moment de gêne.
Vous voyez, ça marche, le moment de gêne.
Et voilà. Et j'ai découvert que l'utilisation de ces névroses pouvait être très drôle en voyant les premiers films de Woody Allen. Et je me suis dit, faut que je creuse là-dedans. Donc, j'ai creusé dans mon adolescence, qui n'est pas brillante, qui n'était pas très profonde, donc j'ai trouvé très vite. Et c'est le personnage de Jean-Claude Duss, c'est-à-dire ce personnage qui est que les... Non, c'est pas tel temps que les femmes n'en veulent pas, c'est qu'elles ne le voient pas.
Elles ne voient pas, oui.
Non, il s'assied à côté d'une fille, il commence à parler, la fille voit quelqu'un d'autre, ah, tu vas bien, et elle s'en va.
Ouais, l'homme invisible.
Et alors, ce qui me faisait rire,
mais
c'était...
Ça marche tellement, ça.
Mais c'était de l'imaginer dans... Parce que ça a été créé pour le premier bronzé, c'est-à-dire le Club Med. Or, à l'époque, les gens allaient là-bas pour des raisons quand même assez sexuelles. Donc je me disais, quel est le comble? C'est un type justement qui n'a aucune ouverture, si j'ose dire. Ça c'est plus marrant à faire, quoi.
Et est-ce que c'est douloureux de faire rire avec un personnage qui a des traits de celui qu'on était quand on a souffert?
Oh non, au contraire, ça défoule.
Ouais.
Il y a un psychologue ici? D'accord avec moi.
Justement, on va en parler tout de suite.
C'est
avec
l'essence du comique.
Lisa,
bah, au plus, oui.
Lisa Le Tessier, merci de venir à ce micro. Lisa, vous êtes psychologue clinicienne et auteur du Mensonge dans le couple. On avait un débat tout à l'heure.
Carole
Bouquet. Et moi-même, pour savoir s'il fallait ou pas mentir dans le couple. Est-ce que c'est un besoin, le mensonge?
Alors, le mensonge, est-ce que c'est un besoin? Ça dépend des circonstances, ça dépend avec qui on est. Est-ce que c'est en couple? Est-ce que c'est au travail? Est-ce que c'est en société?
Non, en couple.
Ah, en couple. Ouais. Alors, il faut pas confondre déjà.
C'est ce qu'on a dit, on parlait du couple.
Il y a plusieurs types de mensonges. Il y a le mensonge qu'on appelle adaptatif. Il y a le jardin.
Un exemple?
Alors, un exemple de mensonge adaptatif, si on reprend par exemple les exemples du film, au tout début du film, quand William Lebgill répond à Carole Bouquet, oui, ça me ferait plaisir de rester dîner, alors qu'il lui propose des lentilles et du quinoa.
Ouais.
C'est
de la politesse, c'est pas un mensonge.
Si, c'est un mensonge puisque c'est pas vrai. On voit.
Bien qu'on n'est pas d'accord sur
l'idée. On voit clairement qu'il a pas envie de rester. Mais c'est un mensonge adaptatif parce que justement, ça serait inadapté de lui répondre non, ça a l'air dégueulasse, j'ai pas envie de rester. Donc, ça, ce sont des mensonges adaptatifs. Je donne toujours aussi l'exemple que j'ai.
Pardon,
bien
alors
du...
moi, je qualifie tellement pas ça de mensonge pour moi. C'est de la politesse. Mais non, mais c'est être.
Tu dis le contraire, société. Mais tu penses.
C'est pour ça.
C'est de pas dire. C'est quand quelqu'un arrive en disant comment tu me trouves, et pas lui dire ah ben t'as grossi.
Oui, mais exactement. Mais exactement.
L'idée du mensonge, mais ça, c'est ça de la politesse.
C'est juste que ça. C'est juste que ça s'appelle. C'est juste que ça s'appelle quand même un mensonge adaptatif. Ça témoigne d'une adaptation sociale, d'une intelligence émotionnelle, et on a besoin de fonctionner avec ça, sinon effectivement on ne peut pas vivre en société. Mais ça reste quand même un mensonge.
Donc on a besoin du mensonge pour vivre en société. Ça s'appelle, pour moi, ça s'appelle juste la politesse. Hein.
Savoir-vivre.
Du savoir-vivre.
Voilà, exactement.
Très bien, savoir-vivre. Exactement.
Alors appelez ça si vous voulez, du savoir-vivre.
Mais c'est un mensonge adaptatif.
Mais alors est-ce que le mensonge au sein du
couple... C'est comme si vous êtes invité chez quelqu'un et vous dites que c'est mauvais, vous leur dites c'est mauvais.
C'est délicieux.
Vous faites semblant que c'est...
Mais après on peut ne rien dire.
Et on n'en reprend pas.
Moi si. Le pompon, c'est que... Non, je sais pas. C'est-à-dire, plus c'est mauvais, plus j'en reprends. J'ai toujours pas compris pourquoi. C'est-à-dire, je crois que je cherche absolument à trouver quelque chose qui me plairait.
Et vous dites, je vais m'habituer finalement à ce goût nouveau.
Et puis, par gêne aussi, par rapport aux gens, par rapport à... Ouais. Voilà, donc je vais très loin, effectivement, dans le savoir-vivre.
Et au sein d'un couple, alors, ce... Voilà, les mensonges.
Alors, on estime qu'au sein
ça peut aller loin aussi.
La politesse.
La tromperie.
Ça peut aller loin. Les études montrent suivant les études, à peu près 10% des interactions dans un couple est un mensonge. Après, on peut pas, à mon sens.
Qu'est-ce que vous appelez interaction?
Interaction, ça veut dire, là, on est en train de faire une interaction, un échange.
D'accord.
Voilà.
Qu'il soit verbal ou texto ou mail ou.
Voilà. Il y a à peu près 10%, si on prend tout, qui va constituer un mensonge. Mais encore une fois, il y a plein de mensonges dont on ne se rend pas compte parce que justement, alors vous appelez ça de la politesse ou on peut appeler ça, je sais pas, de l'empathie ou de l'intelligence sociale, mais enfin, voilà. Donc il y a quand même une grosse partie de ces mensonges qu'on classe là-dedans. Après,
quand un mari a une maîtresse, ça s'appelle plus de la politesse.
Alors non, mais laissez-moi.
Ça s'appelle de l'ouverture sociale.
Laissez-moi finir ma phrase.
Élargir le cercle de ses amis.
On ne peut pas fonctionner, on va dire de façon saine, dans un couple sur des bases de mensonges.
Oh,
il faut pas.
Est-ce que vous êtes bourgeoise?
Il ne faut pas confondre mensonge et jardin secret, c'est-à-dire avoir son propre espace psychique, garder certaines pensées pour soi, etc. Ça fait partie du jardin secret, on en a besoin pour que le couple s'aère, que chacun ait sa distance nécessaire, etc.
Sa personnalité finalement,
son
charisme. Ouais.
Voilà. Par contre, fonctionner sur un mensonge, on le voit d'ailleurs dans le film, Jean-Paul Rouve qui s'enlise complètement dans ces histoires de mensonges.
Bah, lui, il trompe sa femme et sa maîtresse.
Il trompe sa maîtresse.
Enfin, il ment à tout le monde.
Il s'en sort pas. Le film est extrêmement riche d'un point de vue psychologique parce que
ça veut dire qu'il faut que je consulte avant de mourir.
Non, parce qu'il y a tout ce qui...
Non, mais votre consultation, c'est d'écrire des scénarios.
Oui, c'est impossible.
Il y a tout ce qui se passe en verbal. Il y a aussi beaucoup de choses qui, dans le non-verbal, qu'on voit dans les échanges entre les personnages. Donc, fonctionner comme ça sur des bases de mensonges dans un couple, c'est voué à l'échec. C'est pas possible. Mais il faut savoir...
Ce qui est voué à l'échec, c'est le couple qui est voué à l'échec.
Oui,
c'est un couple.
Mais il faut savoir...
Est-ce que c'est vraiment voué à l'échec?
Après, il faut voir ce que vous mettez comme définition pour le mensonge. C'est-à-dire avec un...
Tromper.
Mais vous pouvez très bien...
Oui, tromper...
On a des exemples... pas faire non plus. Ouais. Attention.
Gilles
Bazar, mais...
Est-ce
pardon,
qu'on peut
moi,
basculer
moi.
Sur France Culture?
Oui, Gilles oui, Bazar. Oui, non, mais c'est pas ça. C'est que... Pas vous, hein, qui était une amie de mon fils. Ils étaient à l'école ensemble.
C'est faux, c'est un mensonge.
Oui.
Non, c'est vrai.
Vous êtes le fils de Carole Bouquet?
Non.
Ça, c'est vrai.
Mais si il y a une autre femme ou un autre homme dans votre vie à un moment donné, et vous êtes marié, enfin marié ou pas marié, vous vivez avec quelqu'un, il se peut très bien qu'à un moment donné, cette histoire s'arrête et que vous continuiez à vivre avec la personne avec qui vous avez vécu et que cette histoire de couple soit magnifique.
Carole, ça s'appelle tromper, ça.
Oui, c'est une parenthèse.
Non, mais peu importe ce que dit Carole,
oui, ça s'appelle tromper, mais on peut aussi trouver d'autres mots. Ça s'appelle avoir une aventure, ça s'appelle on peut aussi aimer quelqu'un d'autre tout en aimant
un l'amour de la passion.
Non, c'est pas. Mais bien sûr.
Toi, tu peux.
Alors ça, c'est les polyamoureux.
Mais est-ce que, pas tout le monde.
Non, pas tout le monde. Mais est-ce qu'on peut aimer deux personnes en même temps? Oui, je pense que oui, moi, dans la vie. Je pense qu'on peut aimer et pour autant ne pas vouloir tout détruire d'une vie qu'on aurait construite. Par exemple, si vous le faites tout de suite, oui, à ce moment-là, c'était pas la peine de vivre. C'est-à-dire, si toutes les semaines, ça, c'est pas pareil, c'est compulsif. Mais sinon, voilà, j'arrête.
D'ailleurs, il y a un moment dans le film où c'est évoqué, dans un escalier.
Attendez, avec Madame André.
Avec Madame André.
C'est une merveilleuse actrice à la voix de basse très prononcée.
Oui. Formidable. Lisa, vous avez bossé le sujet puisque vous avez publié chez Odile Jacob Le mensonge dans le couple. C'est extrêmement bien fait puisqu'il y a aussi à quel point faut-il concerner ou pas les enfants. Il y a la notion de pardon aussi au sein du couple après justement que des erreurs aient été commises ou des dérapages ont pu.
Des dérapages et de l'amour.
Dérapage, c'est ça. Erreur, qu'est-ce
on peut aimer, on peut aimer quelqu'un d'autre. Peut-être, même en étant
des... C'est une attirance physique, c'est pas de l'amour.
Mais j'en sais
rien.
Je suis pas sûre. Vous avez l'air très sûre de vous, pas moi. Je pense que
aimer, c'est quelque chose de très, très, très. On peut pas aimer 25 personnes
non, mais
dans
deux,
sa vie.
Deux.
Bah,
deux en même temps.
Trois. Non, mais à partir de deux, c'est 25 possibles aussi, oui. Hein. Parce que, oui, une fois qu'on a franchi le pas de deux, ça va, 4, 5.
Mais non, c'est pas vrai.
Voilà, c'est un jardin secret peuplé de femmes.
Merci, Lisa.
C'est comme si vous me disiez.
Oui, pardon.
On parle pas d'amant. Quand on a 4, 5 enfants, alors à ce moment-là, on ne pourrait pas les aimer ? On ne pourrait en aimer qu'un ? Non, on aime ses enfants, même quand ils sont plusieurs, et autant. Et je peux vous dire que je me suis posé la question, car j'étais enceinte de mon second fils, et je me disais, mais comment je vais faire pour aimer ce deuxième enfant autant que le premier ? J'étais très angoissée.
Hein. Je pense que l'amour...
Et au moment où il est né, eh ben, je l'ai aimé autant.
L'amour pour les enfants se multiplie, plus ils sont nombreux, plus l'amour se multiplie, oui. Mais je pense qu'au sein du couple, c'est l'inverse.
D'accord. On n'est pas fait pour vivre ensemble.
Vous et moi.
Soyez justement, alors.
Vous voyez bien que je le regrette. Tanguy Pastureau.
Bonjour.
Bonjour, Tanguy.
Est-ce que vous trompez votre femme, Tanguy?
La réintroduction des ours dans les Pyrénées s'avère compliquée.
Oui, on a lâché un ours jeudi, un autre vendredi. On tourne à un ours par jour. Si on avait mis les Chinois sur le job avec leur productivité, là, il y en aurait déjà 70 000. Mais dans le Béarn, il y a des anti-ours et ils leur en font la guerre ce week-end.
On en reparlera après les infos de 12h03 aujourd'hui. C'est la bande originale, soyez les bienvenus avec Leïla Kadour-Boutadi, Daniel Morin, Albert Adjou, Jérémy Crédville,
bonjour.
Nos invités, Carole Bouquet, Michel Blanc. Oh. Et tout de suite, Monsieur Tanguy Pastureau.
Il est où?
Bah, il faut, oui. J'attendais la fin de la grimace. Tanguy, vous allez nous parler des ours. Apparemment,
oui,
vous imitez très bien.
Oui, les ours sont des animaux super, hein, puisqu'ils nous ressemblent. L'hiver, ils n'ont rien envie de foutre. Mais ils n'ont pas Netflix. De toute manière, avec leurs grosses pattes, ils n'arriveraient pas à zapper, donc ils pioncent. L'été, ils ressortent et se baladent à poil dans la nature. Comme nous au bois de Vincennes quand on rouvre l'espace naturiste. C'est-à-dire trois bouts de prés dans lesquels s'agglutinent des dizaines de gens sans slip. Qui ne doivent surtout pas entrer en érection sous peine de réduire de moitié la place dont ils disposent. Ils sont obligés de penser à des trucs tristes comme les audiences d'Yves Calvi sur Canal+. Le souci, c'est que des ours, il n'y en a quasiment plus chez nous, comme des autres bêtes. Tout ce qui reste, c'est trois Yorkshire Decati dans le 16e, avec au bout de leur laisse une mémé en fin de vie, à tel point que parfois on ne sait plus qui est le chien de la dame et qu'on se retrouve à caresser la senior qui murmure « Oh oui, mon loup, j'avais pas pris autant de plaisir depuis cette folle nuit avec mon Gunther en 42. » La France a donc réintroduit dans les Pyrénées deux ours femelles, qu'on confond avec les mâles parce que par peur, personne ne s'approche jamais assez près pour vérifier ce que c'est. C'est comme avec David Douillet. Hein, si ça se trouve, c'est une fille. Donc, elles s'appellent Claverina et Sorita, sont slovènes et enceintes. Bref, ça sent l'arnaque à la CAF. François de Rugy en personne était venu annoncer la réintroduction des bêtes. Il avait pris un avion plus un hélico, s'était posé dans un champ, avait dit « Salut les losers, pour venir ici, j'ai claqué le bilan carbone de 100 000 vaches qui flatulent. Mais bon, je vais lâcher deux ours, alors je suis écolo, me gonflez pas. » Et avait jeté dans un ravin un sac rempli de bouteilles plastiques pour compenser. On devrait donc être joyeux parce que Claverina et Sorita vont accoucher dans la cambrousse, comme le ferait José Bové si on lui installait un utérus. Et on va éviter la disparition de l'espèce. On a déjà laissé s'éteindre les électeurs socialistes, il fallait agir. Mais en France, rien ne se passe sans que quelqu'un braille. Il a raison, Macron, nous sommes des cons. Moi, si j'étais à l'Elysée, j'appellerais Xi Jinping pour lui dire « Bébé, je te vends le pays pour un euro symbolique. Si en plus tu rases Lyon pour construire construire un parking et foutre le seum à Colomb, je te le file même gratos. Ainsi, samedi, des éleveurs et chasseurs locaux sont quand même allés dans la montagne traquer les deux ours. À peine arrivés, on leur fait la guerre. C'est un enfer. C'est comme quand vous louez à Ibiza et que le type qui a pris l'appart sur le même palier, c'est Bob Sinclair qui teste ses mix.
Bon, mais qu'est-ce qu'on reproche à ces deux ours femelles?
Eh ben, les éleveurs craignent qu'elles s'attaquent aux brebis. Or, un ours contre une brebis, la lutte est déséquilibrée. C'est comme si chez nous, on mettait Lily Rose Depp, qui fait 22 kilos dans 22 dos, face à Gérard Larcher et qu'on lui disait, vas-y, je t'y morsi l'œil. D'autant que si une brebis est effrayée, elle se jette dans un trou et les autres la suivent parce qu'elles font toutes la même chose. Comme nous, les Parisiens, quand il y a un bar branché qui vient d'ouvrir et qu'on fait la queue deux heures devant juste pour siffler un mojito à 24 boules. Et en même temps, l'ours se nourrit à 70% de végétaux, comme Doc Gynéco. Hein, il bouffe moins de barbac que nous. Vous traînez un ours chez Hippopotamus, il prend juste le café gourmand. Et l'État finance pour les éleveurs le gardiennage permanent et l'achat de chiens de protection. Donc on se dit, ça va les gars, en fait c'est juste les bêtes que vous n'aimez pas. On aurait collé dans le Béarn les mecs de ZZ Top qui ont la même pilosité que des ours, c'était pareil. D'autant que sur place, certains bergers disent eux qu'il faut cohabiter avec les ours. Mais ces gens-là, on les entend pas. Si BFM TV a d'un côté un anti-ours qui braille, qui va en faire un tapis, et un pro-ours qui dit non, on va trouver une solution, ils filment l'anti-ours parce que la colère, c'est vendeur. On a plus filmé Philippe Martinez de la CGT prêt à défoncer Macron avec 4 merguez, plutôt que le mec plus consensuel de la CFDT, qui est d'accord pour tout avec tout le monde, et dont on connaît même pas le blas parce qu'il est zen. Donc samedi, les éleveurs ont traqué les pauvres bêtes, avec des chasseurs, hein, ces gens dégénérés à qui l'Elysée fait des turlutes, pour, disent-ils, effrayer les ours et les faire fuir vers l'Espagne. Ils se sont déjà récupérés Manuel Valls. À un moment, ce pays va mal le prendre. Hein, ils vont acheter sur le Darknet un missile à Kim Jong-un et nous le balancer sur la face. Ainsi, Jean Lassalle, qu'on aime bien comme ça parce qu'il est défoncé H24 à la gueule de lichen, fait partie des anti-ours. Donc si les bêtes le voient arriver en chantant la pitchouli avec sur la tête la culotte de sa femme, c'est clair qu'elles vont se dire « Viens, on se barre en Espagne hein, !» Donc moi, vous me connaissez, ours contre chasseur et éleveur. Je suis du côté des ours parce que je préfère les animaux aux hommes. Hein. Les gosses ont des nounours, mais pas un seul n'a de peluche de Jean Lassalle. Hein. C'est pas un hasard. Les réintroduire, c'est juste réparer les erreurs qu'on a commises en les faisant crever un par un. Bien sûr qu'ils font hors lâcher, ainsi que des loups dans la forêt et des fans au concert de Chaim. C'est pas juste un truc de bobo, c'est l'impression que ça donne parce que c'est Rugy, l'écologiste en pantoufles qui kiffe le glyphosate, qui s'occupe du dos. Mais si on réfléchit bien, l'ours était là avant l'éleveur. On a colonisé leur territoire jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus un de vivant. C'est ça le grand remplacement. Donc fuck la salle et vive les ours.
Merci.
Bravo. Le 19 octobre à Bandol et le 20 octobre à Millau pour Tanguy Pastureau.
Et le 10 octobre pour la sortie du film Voyez comme on danse, Michel Blanc, un film pour rester d'ailleurs sur, avec des connotations, peut-être pas politiques, mais on va dire sociales. Dans le film, les riches sont plus riches, les pauvres sont plus pauvres. C'est un hasard dans votre écriture.
Je dois être imprégné de l'air du temps. J'ai pas, je n'ai jamais eu de considération sociale ou préconçu ouais. En écrivant le film,
c'est la réalité, l'air
du temps et ça m'est venu comme ça, mais c'était pas une volonté démonstrative.
Quoi. Et de rendre Carole Bouquet mangeuse de quinoa. Et...
Ah bah c'est une idée à elle. C'est-à-dire que quand je lui ai envoyé le scénario, il y avait pas ça dedans. Et elle m'a raconté un séjour qu'elle venait de passer en Californie, à Los Angeles, où elle m'a dit que son fils voulait se faire un petit déjeuner un matin et qu'il n'a trouvé que ces saloperies-là à manger. Et,
c'est très bon le quinoa, pourquoi vous dites ça?
Ah non, mais quinoa, je vais parler des graines de chia, non, je vais parler des pousses, enfin de
tout. Quand elle a dit graines de chia,
bio branché.
Voilà.
Graines de chia, ça sonne tellement bien. Que
ça fait envie.
Que ça existe. Il y a deux ans, personne n'en parlait. Il y a deux ans, du chia. Donc, je me suis renseigné. On en a un paquet à la maison. On n'y touche pas. On fait attention. Ça peut devenir précieux. Donc voilà.
Non, mais c'est bon. Ça mais arrêtez. Mais c'est bon. Vous aimez pas ça?
Mais non. Non.
Donc, vous les achetez si vous aimez
mais
pas.
Comme la nature.
Non, c'est pas moi qui l'ai acheté. Ça, c'est ma femme. mais elle les mange pas non plus. Hein.
Vous dites elle avec la voix. Moi, vous dites avec la voix d'un homme battu. C'est pas moi.
C'est pas moi. Non, c'est comme les jus, ça me fait rire. C'est pas, tous sont pas dégueulasses, mais il y en a qui le sont. Faut quand même pas rêver. Il y a des trucs, c'est des punitions. Mais il y a cette espèce d'assimilation entre c'est pas bon, mais ça fait du bien qu'on avait avec les médicaments quand j'étais petit. Hein, l'huile de foie de morue, c'est absolument dégueulasse, mais c'est très bon pour la santé. Voilà.
Alors, il faut être belle pour souffrir, enfin, il faut souffrir pour être belle.
Oui, mais non, mais pas, voilà. Je pensais pas à être belle, parce que j'ai renoncé à ça depuis longtemps. je pensais à être en bonne santé, et j'y renonce de plus en plus, d'ailleurs, aussi.
Donc, mais je bois si du vous vin... Êtes, si vous êtes hypochondriaque...
Raisonnablement, mais...
Mais attendez, il y a un truc qui est paradoxal.
Oui, ouais. Si mais je suis paradoxal, c'est pour ça que j'écris des films.
Si vous êtes très bien, que vous soignez avec vos écrits, mais si vous êtes hypochondriaque, vous devriez justement faire attention à ce que vous mangez pour le premier pas vers une bonne santé, c'est ce que l'on mange.
Oui, c'est pour ça que je mange que des trucs bons.
Non, mais il fait très bien la cuisine. En ce moment, moins, parce qu'avant, on était invité chez lui. Là, on n'y est plus. Il ne fait plus la cuisine. Mais bon, il fait très bien la cuisine. Et il adore manger. Hein, donc, c'est un fin gourmet. Mais effectivement, les trucs, les jus d'épinards ou les choses comme ça, il n'aime pas ça, quoi. Non, mais je comprends, hein, parce que j'en bois, moi, de temps en temps, pensant me faire du bien. Et effectivement.
Faites des petites cures de détox ou des trucs comme ça, oui.
Voilà. J'en ai fait, j'en fais plus. j'ai fait, au début, j'ai essayé, pour ça que je vais raconter, parce que quand un de mes fils, donc à Los Angeles, effectivement, on l'envoie dans un endroit pour prendre un petit déjeuner, il a piqué une colère. Il m'a appelé en disant, mais tu sais bien que je déteste ça, il n'y avait que ça. Des jus d'épinards, des graines de chia, et il m'a dit, non, je cherche quelque chose à manger, qu'est-ce qu'il y a, envoie-moi dans un endroit.
Alors revenons à ce film. Alors, vous, voyez comme on danse. Vous voulez montrer la fragilité du couple, la fragilité de l'amour, le fait que tous les personnages finalement sont des funambules, des équilibristes.
Ce que je voulais montrer surtout, c'est que la déstabilisation de n'importe quel individu peut être traité en comédie, peut faire rire, alors que lui vit un enfer. Ce qui est le cas de Jean-Paul, qui vit un enfer.
Voilà, ils sont tous sur la tangente.
Oui, non, mais je prends un exemple avec le personnage de Jean-Paul. Mais Karine, c'est un enfer permanent et quasiment depuis sa naissance, comme le dit Dutronc. Tout lui tombe dessus. Elle se fait virer de son boulot. Elle n'a pas un sou. Elle découvre. Bon, je ne veux rien spoiler, mais à un moment, elle a une très grosse inquiétude sur son fils et sur la manière dont il gagne l'argent qu'il lui donne pour se nourrir. Voilà, et je pourrais les prendre tous comme ça. Donc c'est pas le rapport de couple tellement qui m'a. C'est le rapport de déstabilisation. Enfin, c'est l'idée de déstabilisation de personnages qui d'un seul le sol se dérobe sous leurs pieds à peu près à tous.
Et quel que soit le niveau social. Personne n'est épargné.
Non, ouais. Non, ça serait. Alors sinon, ce serait. Pas juste, ouais. Déjà c'est pas juste. Mais
comment travaille Michel Blanc, Carole Bouquet quand il justement est-ce que les textes sont écrits et il faut les respecter au mot près.
Ah oui, bien sûr, les textes sont écrits surtout dans une comédie quand les dialogues.
Le rythme est important. Ouais.
Le rythme est très important. C'est comme de l'horlogerie suisse. C'est très difficile de faire une comédie. Et les dialogues sont écrits, vous les respectez parce que quand ils sont bons, vous avez aucune envie d'y toucher. Hein, quand ça marche, et ça pour ça il est très fort. Et en plus c'est un très bon directeur d'acteur. Parce que le pire, c'est quand un metteur en scène vous donne des idées psychologiques, vous raconte l'idée du personnage. Ça vous sert vraiment à rien. Mais il y en a beaucoup qui font ça. Mais ça vous aide pas du tout. Ce qu'il faut, c'est des choses pratiques. C'est donc d'un acteur qui sait vous expliquer pourquoi tout d'un coup vous arrivez pas et qui va vous dire des choses. Oui, pratique, comme une recette de cuisine qui va voilà. Et puis je trouve qu'il travaille de mieux en mieux. Je trouve que c'est un metteur en scène vraiment. Ce dernier film et il me semble quoique Grosse Fatigue c'était pas mal mais il me semble que c'est le plus beau qu'il ait fait jusqu'à maintenant, c'est-à-dire il arrive à il est non seulement drôle et en même temps il est presque absurde, fou, délirant. J'étais très surprise moi à la vision du film. J'avais eu le scénario bien sûr, j'avais dit oui, mais après j'ai lu le scénario quand même. Et le film est encore mieux que le scénario, ce qui est très rare.
Vous l'avez tourné, mais en le tournant vous rendiez pas compte de cette espèce de folie dans laquelle vous
êtes. Oui, si, mais pas à ce point-là. Et c'est vraiment en voyant le film mais c'est très rare d'avoir des films où vous avez la surprise divine de que le film est mieux que le scénario. Et ça, je l'ai compté sur les doigts de ma main hein, pour lesquels ça m'est arrivé. Donc c'est vraiment rare, et c'est ce qui m'est arrivé quand je l'ai vu à Angoulême, avec les spectateurs d'ailleurs, parce que j'ai ri comme une gourde, enfin pas comme, mais on était
de bon cœur.
Oui, c'est-à-dire j'ai oublié qu'on était dedans, j'ai oublié que j'étais dedans, j'ai ri avec tout le monde et en permanence parce que ça part à toute vitesse, effectivement, tout de suite, en cascade. Le sol se dérobe, comme dit Michel, sous les pieds de tout le monde, tout le temps, mais on n'a pas le temps de se retourner une seconde, ça n'arrête pas.
C'est-à-dire qu'il suffit que de trouver une solution pour se sortir d'un faux pas pour que ce soit plus grave encore que le faux pas dans lequel on était.
Ouais, ouais.
Ils n'ont Oui, vas-y, pardon.
Non, je dis, ils n'ont pas que de bonnes idées, les personnages.
C'est ça, c'est ça. Voyez comment on danse. Oui, la faute à qui? Voyez comment on danse, signé Michel Blanc, c'est ce mercredi au cinéma. Voici Monsieur Daniel Dorin. Et courage, Daniel.
Oui, j'y vais. Et on commence par une bien triste nouvelle, pourtant. Ouais, une nouvelle qu'on pourrait ranger dans la catégorie fraude fiscale et art de vivre. Eh bien, c'est fini. Fini le bon vieux temps. On pouvait compter sur les Suisses pour planquer ces millions en trop. Nagui est en larmes. Aujourd'hui, à Paris, s'ouvre le procès de la banque UBS et de 6 de ses anciens dirigeants pour incitation à l'évasion fiscale. Le manque à gagner serait de 10 milliards d'euros pour la France. La technique suisse était simple, mais besogneuse. Repérer les Français blindés d'oseille et les inciter à placer leur argent chez eux. De l'argent non taxé. Et pour choper le prospect, c'était le grand jeu. Invitation à des chasses à cours, loge à Roland-Garros, concerts de musique classique, parcours de golf exclusif. La classe totale. Ah ça, on n'était pas dans le deal de rue en pleine nuit derrière le mur d'une banque avec un gars chelou qui accoste les traders en manque. Hein. Psst, ça t'intéresse? J'ai de l'action Apple à 215$ au lieu de 224, c'est un produit de ouf. Si tu m'en prends plus de 100 000, je te les fais à 205. Ouais, t'as quoi d'autre? J'ai de l'assurance vie à 3% au Luxembourg, total légal en apparence, plus 12% caché sur compte offshore à Singapour. Pas mal quoi d'autre? J'ai besoin d'un truc hyper fort. J'ai ce qu'il te faut, mec, attention, ça pique. 14% d'intérêt net d'impôt, mais la mise de départ, c'est 20 millions d'euros minimum. C'est où? À Panama, la Casa Banca de Los Anculados. Alors, UBS Suisse, donner une petite comptabilité parallèle pour ses clients français fortunés, une comptabilité hyper discrète et malicieuse à la fois, où les clients étaient recensés dans un dossier appelé « carnet du lait », dans un fichier informatisé nommé « vache ». Les vaches, le lait, le pognon, à croire qu'en France, on a utilisé des slogans suisses. Ah, l'humour de banquier. C'est de loin le meilleur. Allez, avant de se quitter, quelques nouvelles de Gérard Collomb, Gégé, qui était, quand il était ministre à Paris, ça n'allait pas. Malheureux, il traînait sa misère. N'avait plus goût à rien. Son espérance de vie était fixée à Noël prochain. Jour de l'an, au plus tard. Qu'en est-il depuis qu'il a retrouvé sa bonne vieille ville de Lyon? Oh, mais c'est l'éclat total. Il va de rendez-vous en rendez-vous, il enchaîne les fêtes à droite, à gauche. Il inscrit à des cours de Zumba. Tous les matins, il nage dans le Rhône sous les applaudissements de la foule qui crie son nom. J'ai. Fini les pilules pour dormir, les cachets pour se réveiller. Il paraît que la nuit, il est intenable. Il aurait 12 maîtresses, il est au taquet, elles sont épuisées, les pauvres filles. Hier soir, au Parc des Princes, les Lyonnais auraient dû le faire jouer contre le PSG. Il se serait pas pris 5-0. Tu mettais Colo en avançante, il pliait le match avec 6 buts. Au taquet, je vous dis. En moins d'une semaine, il s'est refait une santé. Moi, je sens qu'il prépare un truc. À la veille du remaniement, ça ne m'étonnerait pas qu'il demande à Macron le ministère des Sports. À demain.
Merci.
France Inter, la bande originale avec Nagui.
Voyez comme on danse. Je voudrais revenir aussi sur le personnage de Charlotte Rampling qui a cette espèce une espèce d'élégance à l'extérieur, mais d'une méchanceté par moment.
Oui,
par moment, pas avec tout le monde, mais
non, mais justement
la scène où elle demande, alors on va pas tout dévoiler, mais où elle demande de voir moi justement, c'est une violence.
Oui, mais alors c'est un mélange parce que c'est comme on sent que c'est dans sa nature, c'est comme le scorpion qui pique le zébu au milieu.
On peut juste dire une chose pour que les auditeurs qui n'ont pas vu le film comprennent ce dont on parle. Elles vont se retrouver à travailler ensemble, Karine Viard et Charlotte Rampling. Oui. Elles se connaissent dans la vie et pour cause puisque c'est
Charlotte est devenue la marraine de la fille de Verlaine parce que Jacques Dutronc a obligé le personnage a obligé ce pauvre couple de Véronique et son mari, comme ils ne peuvent plus dormir que dans une caravane, à foutre la caravane derrière le local poubelle pour que ça ne se voit pas de la rue. Et là, elle a eu un deuxième enfant. Et comme c'est dans le jardin de Charlotte et de Jacques, appelons-les comme ça, elle est devenue la marraine de la petite. Et on sent que la petite, il y a plus de stabilité chez le personnage de Charlotte Rampling que chez le personnage incarné par Karine Viard. Donc
elles se retrouvent à travailler ensemble, elles se connaissent, donc elles se tutoient dans la vie, elles se confient. Elles s'aiment beaucoup, sauf qu'en travaillant ensemble et en étant sa supérieure hiérarchique, elle lui dit, il va falloir me vouvoyer
et plus me tutoyer.
Voilà.
Oui, mais parce que ça, c'est le côté très anglais. C'est-à-dire qu'on a de l'amitié, mais il y a des lois, il y a des règles.
Il y a une hiérarchie.
Il y a une hiérarchie. Comme
dans la société.
Il y a tout ce côté-là, elle-là, on ne remercie jamais deux fois, c'est très working class. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas échapper à ça. Et elle est la première à la prendre dans ses bras à la fin pour... Elle est la première gênée de lui proposer le boulot que je ne vais pas raconter, mais le boulot que son mari, joué par Jacques Dutronc, a proposé à Véro Karine Viard. Elle est très, 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 très gênée de ça parce qu'elle trouve ça très humiliant. Donc elle le ressent, ça. Mais elle n'est pas capable de passer au-dessus de certaines piques. C'est ça que j'adore.
Vous voyez comment, ouais. Vous voyez, en fait, vous aimez la littérature anglaise, mais pas les Anglais.
Pas tout le temps.
Pas tout le temps. Vous voyez comme on danse, c'est au cinéma ce mercredi. Carole, vous êtes en tournée avec Heureux les Heureux, extrait du roman de Yasmina Reza, mis en scène par Jacques Connor. Vous serez ce mercredi à Béziers, ensuite Canet en Roussillon, Herblay au mois de novembre, le 3 à Namur, le 6 à Marseille, le 8 à Monaco. Le plaisir d'être sur les planches, c'est quelque chose qui est... sans comparaison avec tout ce qu'on peut vous proposer dans votre métier.
Non, j'aime autant le cinéma que le théâtre. C'est pas du tout la même chose, mais j'aime autant l'un que l'autre. Et j'ai besoin de l'un et de l'autre. Là, le plaisir, comme c'est le début, c'est encore fragile. J'ai l'impression un peu d'être un funambule parce que je suis toute seule sur scène. C'est moi qui l'ai voulu, donc je peux pas me plaindre. Mais je pense que la prochaine fois, je recommencerai avec des partenaires.
Donc allez-y vite, parce que ça sera donc pour une
mais
fois.
Mais c'est pareil, ça parle du couple, ça parle de la solitude dans les couples
et dans le mensonge.
Et
dans l'air du
temps. Ça se ressemble vraiment énormément.
Des excuses à présenter, Daniel Morin.
Bien sûr, bien évidemment. Désolé pour Michel Blanc, l'hypochondriaque. Votre véritable Michel Albert m'a confié à la pause qu'il avait une angine doublée d'un herpès et d'une gangrène, le tout très très contagieux qui se transmet très rapidement. Il devrait y avoir le docteur quand même. Désolé pour Nagui qui a été étonné, troublé, choqué par l'élégance de Michel Blanc qui se permet d'écrire à ses comédiens quand il ne le reprend pas. Tu vois, Nagui, l'humanisme, le respect, ça se pratique, c'est pas sale. Et désolé enfin pour Monsieur Le Grec qui pensait avoir acheté Carole Bouquet et qui s'est fait avoir. Alors, si vous êtes toujours en recherche et que vous n'êtes pas trop pointilleux, je peux vous louer Leïla. Appelez-moi.
Voyez comme on danse. Merci mille fois, Carole Bouquet. Merci mille fois.
Merci beaucoup.
Michel Blanc et merde, comme on dit pour la sortie de ce film ce mercredi au cinéma. Les carnets de campagne, c'est maintenant avec vous, Philippe Bertrand.
Oui, bonjour Nagui, bonjour les amis. Désolé, Michel Blanc, dans carnet de campagne, il y a campagne.
Ah oui, c'est vrai qu'il aime pas.
Vous n'avez pas de carnet de ville?
Et avec la campagne, finit le nuage permanent qui rend la Tour Eiffel à son état de 1888, vous avez remarqué, avec deux étages en moins. Ouais. Finit les bornes électriques pour voitures fantômes, etc., etc. Je peux vous adresser une liste longue comme le bras.
Je suis tellement d'accord avec vous, Philippe.
Ah super,
je suis
merci
tellement contre Michel Blanc, je déteste qu'il
Ah non, ça n'a rien à voir contre.
Non, je blague. Bonne émission.